Vous serez en parle présenté par Matelas Dauphin, qui vous offre tous les formats de matelas collection hôtel inspiré de l'hôtellerie de luxe à moitié prix taxes payées jusqu'à dimanche dans tous les matelas Dauphin.
7h40. On va parler du phénomène de l'heure à la télé québécoise. Ben, pas de l'heure, de l'année, puis même des dernières années.
Des là, deux dernières
honnêtement,
années.
Honnêtement, ouais. C'est l'enfer. Le District 31, c'est un phénomène. Tout ce qui touche à ça, certains sujets abordés par Luc John deviennent des grosses affaires puis des scandales. On n'a qu'à penser à l'histoire du joueur de hockey. Un moment donné, c'était dans la série, là, un joueur de hockey.
Oui, c'est ça.
Avec une policière.
C'est ce qu'on disait, oui.
Qui a eu un enfant.
Oui, puis il était marié, je vois, ça a l'air.
Ça nous a rappelé deux affaires. À un moment donné, bon, évidemment, on est dans le district 31, c'est la police, fait qu'il y a des méchants là-dedans. Là.
Oui, effectivement.
Puis à un moment donné, ils ont été tombés sur une histoire où il y avait des musulmans.
Mm-hmm.
Là, ça n'a pas passé. Là. Alors, tu sais, comme s'il pouvait avoir des méchants de toute origine, mais pas dans ce domaine-là, voyons. Alors, voyez que Luc Dionne se retrouve régulièrement controversé parce que sa série, ça c'est la bonne nouvelle, a pogné au bout. Récemment, on a appris que la folie District 31 atteignait des niveaux insoupçonnés. Elisabeth s'est entretenue avec des fans finis, dont une. Vous allez pogner de quoi, là? À quel point il tripe sur la série. Puis on a décidé de pas juste y parler. Tu as réussi à jaser avec l'auteur Luc Dionne
oui.
pour savoir comment il gère tout ça. Il sait qu'il y a des fans finis. Lui, il a un peu une job à la Marc Bergevin. Là. Tu sais, qui gère le Canadien. Parce qu'il gère une série que toutes les histoires, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Alors, c'est pas facile, un peu. Donc, d'abord, Elisabeth, parle-nous des fans.
Oui, en fait, il y a plusieurs groupes Facebook qui sont de gens qui se rassemblent pour parler de District 31. Puis, il y en a un en particulier qui est géré par une dame qui s'appelle Lise Vaillancourt. C'est avec elle que j'ai parlé.
Oui.
Elle, là, en gros, elle passe plusieurs heures par jour à retranscrire mot à mot les épisodes de District 31. Alors, vous commencez, puis là, le premier comédien dit une phrase. Elle fait pause, elle retranscrit la phrase. Elle fait ça pour tous les épisodes, et c'est une quotidienne, je vous rappelle. Il y a 4 épisodes par semaine. Alors, évidemment, elle est retraitée, Lise Vaillancourt. Vous avez compris que c'était une job à temps plein.
Ça veut dire que si tu as raté un épisode, et pour X raison, tu n'es pas capable de regarder l'épisode, parce que je me sens que c'est assez facile aujourd'hui.
Oui.
Mais bon, mettons que la personne, elle peut pas. Elle s'en va sur son site et elle relit l'épisode.
Exactement. T'as manqué une information dans l'interrogatoire d'il y a 3 épisodes, puis c'est important l'information. Ben, à place d'aller chercher la phrase dans les épisodes,
ah ouais,
tu vas aller.
Ça peut être pratique.
Exactement. Alors, c'est à elle que j'ai parlé.
Ouf.
Alors, elle va vous expliquer exactement ce qu'elle fait
oui.
pour le groupe Facebook, exactement. Puis j'ai demandé aussi, est-ce que vous pensez que vous êtes la fan la plus intense de District 31? Et selon elle, il y en a des pires qu'elle.
À tous les jours, je retranscris les épisodes en cours. Si l'épisode est important, comme un interrogatoire, c'est important, je vais retranscrire l'interrogatoire mot à mot. Ça veut dire que lui parle à lui, je vais mettre, mettons, Laurent dit ça, lui dit ça, lui dit ça. Là, ça peut être long, ça peut être entre 4 et 6 heures. Il y en a qui sont plus intenses. Tu sais, l'intensité, là, est là aussi. Là, moi, je suis capable de faire la différence entre c'est la réalité et la fiction, là. Mais il y en a qui embarquent plus que moi au niveau là, de la réalité, là. Qui vont détester même le comédien, si on prend là, Yannick, qui vont réussir à détester Patrice Godin, parce qu'il incarne Yannick, ça c'est non, moi c'est non, là.
Alors, vous avez compris que les plus intenses, là, surtout bon, le comédien Patrice Godin joue un personnage qui est très psychopathe, vraiment psychopathe. Et il a témoigné à plusieurs reprises, Patrice Godin, que là, quand il se fait approcher dans des lieux publics, souvent, les gens font pas la différence entre son personnage et le comédien. Il dit, c'est parce que je suis pas psychopathe, moi, dans la vie, là, c'est mon personnage qui est comme ça. Et elle a dit qu'elle envoie dans son groupe Facebook des gens qui ont un petit peu de misère à faire la distinction entre le personnage et le comédien. Fait qu'elle dit ça, moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis fan parce que je veux savoir, je veux avoir toutes les informations puis je veux les partager. Mais je suis pas en train de dire que je suis pas capable de faire la différence entre Patrice Godin et son personnage.
Des fois, on rit un peu des gens autrefois parce qu'il allait porter de la nourriture chez la comédienne qui interprétait Donalda dans Les belles histoires des pays d'en haut. Madame Champagne? André Champagne se réveillait. C'est une comédienne, là. Puis elle ouvrait sa porte puis il y avait de la bouffe. Parce que les gens pensaient que c'était Donalda pour vrai, là. Mais tu sais, on rit de ça. Mais là, si les gens veulent à Patrice Godin...
Il y a un problème.
On
là.
Est pas loin de ça. Là. Patrice Godin, il est pas psychopathe, alors qu'il l'est dans la série.
Dans la série, oui, il l'est vraiment. Ah, bon, mais dans la vie, c'est parce qu'il a joué d'autres personnages, Patrice Godin. Là.
Non, mais voyons. Maintenant qu'elle, donc, OK. Mais elle, si elle a du temps, il n'y a pas de mal.
Là, non. Son hobby, elle.
Puis elle retranscrit. C'est sûr que c'est passionné. Là. C'est faut vraiment être fan. Mais c'est correct.
Mais là, on va aller parler à Luc Dionne.
Ouais,
il
lui,
réagit
comment,
là?
Comment il gère? Parce qu'il y a eu plein de scandales, toutes sortes d'histoires. Comment il gère ça? Est-ce les attentes?
Bien, évidemment, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est conscient de l'ampleur du phénomène? Parce qu'on s'entend que pour écrire 4 épisodes par semaine, il écrit tout le temps, Luc Dionne. D'ailleurs, quand je l'ai appelé, c'était dimanche matin. J'ai dit, bon, je suis désolé de vous déranger par ce beau dimanche. Puis il m'a répondu, tu m'appellerais à n'importe quel moment de la semaine que tu me déranges pareil. Fait que ça change rien. Il écrit tout le temps, tout le temps. Alors, est-ce que vous avez le temps d'aller consulter ces sites-là puis ces groupes-là? Est-ce que ça vous intéresse?
Non. J'ai pas vraiment le temps d'aller les consulter. Hein. Bon, j'y vois une fois de temps en temps à l'occasion quand quelqu'un m'envoie quelque chose parce que c'est drôle à soulanter. Hein. Non, j'ai pas le temps. J'écris quand même 160 pages de scénario par semaine. Hein. C'est bien du stock. Fait que quand j'ai fini d'écrire puis que je mets le point puis que je ferme mon ordinateur, je vais surtout pas voir ce que le monde dise de District 31. J'ai assez moi-même de l'écrire. Pis...
Mais y a de, c'est de la pression pareil. Moi, je suis pas la série, mais je sais qu'elle fait mourir
un personnage important. Un des personnages principaux.
Bon. Puis que les gens avaient lancé un boycott de District 31, puis qu'il allait pas qui n'allait plus regarder ça, alors que les codes d'écoute ont continué à monter.
Comme dans Dallas. C'est-tu dans Dallas qu'il y a...
Ouais, le gars qui... C'est un rêve qui est mort. Ouais, Bobby, il est pas mort pour vrai.
C'est Bobby qui est mort.
Ouais.
À un moment donné, ils l'ont ressuscité.
Ils l'ont ramené,
en disant que les deux dernières saisons n'étaient qu'un rêve.
Ouais.
Mais mais là, elle est vraiment morte.
Ah ouais.
Mais j'imagine qu'il a traversé la tempête justement en regardant pas trop ce qui se passe chez les fans.
Moi, mais oubliez pas une chose, il y a des décisions qui viennent même pas de Luc Dionne. Ça, c'est une quotidienne. Ça veut dire que les comédiens qui jouent dans District 31, ils ont pas vraiment le temps d'avoir d'autres projets à côté. Fait que la journée que le comédien qui joue là-dedans depuis 2 ans dit, écoute, moi, ça me tenterait de faire un film puis de faire d'autres choses. Il y a pas le choix là d'adapter ça.
Mais rappelez-vous, c'est quoi le roman de Stephen King là-dessus? C'est Misery? Où la femme est vraiment une fan finie d'un personnage, d'un auteur, puis elle l'emprisonne, là.
Oui, c'est Misery. Je crois que c'est
Misery.
Je crois que oui.
Avec Katie Bates, hein, c'est le fameux coup qu'elle donne sur le pied. Là. Ceux qui ont vu le film se souviennent du coup sur le pied. Mais parce qu'elle veut forcer un auteur à écrire une suite.
C'est pour ça.
Elle ne veut pas que l'histoire s'arrête. Aïe, elle est obsédée par ça. Elle kidnappe l'auteur, elle l'amène chez eux, puis elle le torture.
Là, il y a un problème.
C'est Misery, ça.
Aïe,
non, mais tu vas voir ça. C'est un roman de Stephen King qui a été porté à l'écran. Et il y a une scène célèbre où il y a les âmes sensibles.
C'est
là,
tellement creepy, là.
Ouais, c'est rough, ça.
Bon, on va parler des différentes controverses maintenant.
Oui,
je vais poser la question.
Comment il vit avec
ça? Ouais, c'est ça. Concernant, bon, entre autres, l'histoire de la jeune musulmane. Ça, c'est arrivé il y a plusieurs mois déjà, là, comme intrigue, mais c'est une jeune musulmane dont les parents veulent la forcer à se marier. Elle n'est pas d'accord, elle essaye de s'émanciper. Finalement, elle est victime d'un viol collectif qui implique son frère et les amis musulmans de son frère. Ça a crié sur les réseaux sociaux. On sait bien, encore une fois, vous stigmatisez les musulmans. C'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Et Luc Dionne avait réagi publiquement. Puis j'ai demandé pourquoi vous sentez le besoin de réagir à ce type de controverse-là.
Ouais.
Dans l'histoire de la petite musulmane, j'ai même pas senti le besoin. Il y a des gens qui en ont parlé. Je sais qu'il y a des gens qui en ont parlé. Et quand j'ai écrit cette histoire-là, je me suis dit, quand ça va passer, je vais écrire un mot. Pour bien faire comprendre aux gens que je m'empêcherai pas de parler de quoi que ce soit, puis il y a pas un sujet pour moi qui est tabou, puis si je veux parler de telle affaire, je parle de telle affaire. Voilà, mais ça a pas été fait en réponse à, parce que je passerais mon temps à faire ça. Vous êtes pas dans mon bureau ni dans ma boîte dans ma boîte de courriel, mais j'en reçois des affaires comme ça à tour de bras. Il y a toujours quelqu'un qui se plaint de quelque chose. Un, j'ai pas le temps de les lire. Deux, je prends pas le temps de répondre non plus.
Mais toujours quelqu'un qui se plaint.
Mais il avait
très
bien répondu de façon assez ferme à l'époque.
Oui.
Voyons, je m'empêcherai pas, là. Ça existe, là. Et il a jamais dit dans l'épisode, j'imagine, de District 31, je l'ai pas vu, que c'était tous les musulmans qui étaient de même. Il a pas fait de généralité. Il a parlé de cas qui existent. On l'a vu avec les Chafia, notamment, comment ça peut aller loin. On a vu le drame de la famille Chafia. Alors là, c'était pas la même chose, mais on est un peu dans l'autorité des parents sur les enfants, puis tout ça, jusqu'où ça peut aller en rapport avec la religion. Il y a parfaitement le droit de traiter ça.
Et là, étant donné que j'ai parlé dimanche matin, il fallait que je parle de la dernière controverse en liste avec District 31. Ça s'est passé la semaine dernière. Le dernier épisode, donc de la semaine, qui était le jeudi soir, évidemment, là, je donnerai pas de punch, mais il y a un gentil qui se fait torturer. Il y a une scène qui est extrêmement violente, puis je veux dire, même moi qui n'ai pas de genre à chialer, je l'ai pas regardé au complet, cette scène-là. J'ai vraiment trouvé ça difficile. C'est un gentil qui se fait torturer, et les gens ont dit sur les réseaux sociaux, c'était trop violent, vous avez dépassé les bornes, District 31, c'est trop. Et là, j'ai posé la question à Luc Dionne, et vous allez voir dans sa réponse qu'il fait le parallèle avec une scène finale de la saison dernière, où, je ne donnerai pas de punch encore, mais c'est un méchant qui se fait tuer. Et la scène, selon lui, est aussi violente que celle que vous avez vue la semaine passée, mais c'est drôle, quand c'est un méchant qui se fait tuer, là, c'est pas pareil.
Ben, en fait, quand on l'écrit, on le sait, hein, on sait que ça va provoquer quelque chose. Et quand je vous parlais des choses qui me font sourire parfois, c'est drôle, hein. J'ai pas trouvé ça ni plus ni moins violent qu'un commandant de police qui rentre d'un panier à salade, qui fait mettre un gars à genoux, les deux mains attachées derrière le dos avec des menottes, puis qui tire deux balles dans la tête. Bon, on a mis de la belle musique dessus, tout le monde a trouvé ça extraordinaire, fantastique. C'est violent à calvaire, ça, je peux vous dire ça. C'était tout aussi violent que ce que vous avez vu. C'est juste qu'on a l'épiderme peut-être moins sensible quand c'est un méchant qui se fait tuer que quand c'est un bon. Si je l'écris, j'ai une raison. En l'écrivant, je savais bien que c'était pour crier, puis que c'était pas dire mon dos, c'est bien violent. Puis ils ont pas trouvé ça violent. Ils ont trouvé ça super cool l'année passée quand on a mis une tonne de fastball. Ils ont dit, oh mon dos, ça ressemble à du Tarantino. C'est le fun de finir un ami qui ressemble à du Tarantino, mais quand t'en mets en plein milieu d'un ami puis c'est de l'autre bord, c'est moins le fun, quoi.
Savez-vous ce que je pense de tout ça? Je suis en train de me dire, je vous ai parlé tantôt des belles histoires des pays d'en haut, à quel point autrefois les gens prenaient ça au premier degré, allaient porter de la bouffe à celle qui jouait Donalda. Il y a ici aussi Jean-Pierre Godin. C'est-tu Godin ou...
Masson.
Jean-Pierre Masson, excuse-moi. Il y a ici l'acteur qui faisait Séraphin, mm-hmm. Jean-Pierre Masson. Il se faisait haïr pour vrai, là. Mm-hmm. Mais ça, tu quoi? S'il y avait eu des médias sociaux à l'époque des belles histoires des pays d'en haut, la série aurait dû arrêter, selon moi. Il y aurait eu bien trop de critiques. T'imagines-tu, ça serait fait menacer. Tu sais, je vous parle souvent du bruit ambiant, là. Les affaires qu'avant, on n'entendait pas. Tu sais, ça se passait dans les maisons. Les mondes chiolaient après les séries, sans pas de bon sens. C'est juste qu'à cette heure, ces gens-là, on les entend.
Ouais.
Ils ont un porte-voix. Ils s'en vont sur les médias sociaux. Ça n'a pas de bon sens, les musulmans. Voyons. Il a parlé de certains musulmans qui, là, ils ont le mauvais rôle là-dedans. Il a le droit de mettre des certaines scènes violentes. Il a le droit de parler de rumeurs de joueurs de hockey. Je sais qu'on s'en va vers ça.
La liberté créative.
Puis, il a le droit de faire mourir des personnages. Là. C'est pas un meurtre. Là.
Mais au Québec, on n'est pas habitué encore. On commence tranquillement. Il y en a eu un petit peu dans les dernières années. Là. Mais visiblement, on a l'épidémie sensible au Québec encore par rapport aux personnages qui meurent. Parce que
c'est
la TV américaine. Là,
Par chance qu'il n'y a pas fait Game of Thrones version Québec. Là, parce qu'il y a une coupe de mort là-dedans.
Deux, trois.
Ça, puis les têtes roulent.
Un petit peu violent.
Puis c'est... Ah ouais, mais là, ici, on capote. C'est, honnêtement, on a un petit peu... Mais mon point, c'est qu'on n'était pas si pire qu'ailleurs. C'est juste que les médias ambiants, Facebook, etc. Puis là, les médias commencent à donner de l'importance à ça. Puis là, il y a... En réalité, là... 95% des gens qui regardent District 31, à mon avis, ils aiment ça.
Ben
ils
adorent
ça. Puis il n'y en a pas de scandale, que ce soit avec les musulmans, que ce soit avec les personnages morts ou les scènes de torture. Ils adorent ça. Mais le petit 5% qui fait du bruit, ces médias sociaux, là, on en parle.
Ben
il
oui.
est là, le problème.
Et puis, malgré les controverses des derniers mois, tu as quand même atteint un sommet de plus de 1,7
ben
million
oui.
de téléspectateurs.
Bravo.
Là,
j'aime beaucoup quand Luke John dit, regarde, je lis pas toutes, ouais. je les ouvre pas, j'ai pas le temps. Moi, je fais, regarde, c'est ma liberté. Jean-Simon parlait de liberté de création. Ah oui, go.
Mais là, parlons-en de la liberté de création, justement.
Oui.
Parce qu'on va revenir sur cette fameuse intrigue du joueur de hockey. Là, je parle de District 31 dans la série. Il y a un joueur de hockey d'une équipe de hockey professionnelle du Grand Montréal, parce que la ville, ça s'appelle comme ça dans le District 31. Et il est marié et il y a une aventure avec une policière. La policière tombe enceinte. Et là, tu as plusieurs personnes en regardant cet épisode-là qui ont dit, oh, c'est drôle, on a entendu quelques rumeurs à cet effet-là. Ça nous rappelle quelque chose. Et là, j'ai demandé à Luc Dionne, quand on écrit des intrigues comme ça, qui peuvent possiblement peut-être se rapprocher d'une histoire qui peut-être s'est déjà produit.
Là, il s'en va sur un terrain glissant un
oui,
peu. Parce que
ça.
Depuis le début, il invoque la fiction. Il a le droit, il fait de la fiction. Mais Luke Job, c'est ce qui fait sa force, selon moi, s'inspire souvent de la réalité.
Exactement.
Tu sais, que ce soit le crime d'honneur avec les Chafias. Est-ce que dans l'histoire du joueur de hockey, il s'est inspiré?
Ben là, y a-tu quelqu'un qui révise les textes avant que ça s'en aille en série? Là? Est-ce que quelqu'un nous dit, oh, ça, tu peux pas parler de ça? On l'écoute.
Donc, tous les textes sont revus par les avocats. On appelle ça un mission. C'est un standard dans notre industrie. Ça fonctionne comme ça. Toutes les productions, que ce soit un film, une série, ça passe dans les mains des avocats pour toutes sortes de raisons. Je voudrais bien voir moi, que quelqu'un me rentre et qui m'empêche d'écrire une histoire parce que ça ressemble à l'histoire d'un tel. Non, jamais. Je ne dirais pas que si j'appelle des connaissances que j'ai au Centre Bell, que je vais avoir des billets de saison à faire la ligne rouge en plein milieu. Ça me surprendrait un petit peu. Ça n'a jamais été mon club de hockey, mais je m'en fous.
En avez-vous entendu parler de cette intrigue-là en particulier?
Ben, d'après vous.
Non, mais de gens du milieu, là, pas des spectateurs, mais de gens très, très près d'une équipe de hockey quelconque, là, mettons. Est-ce qu'ils ont appelé? Est-ce qu'ils ont dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ou,
Non, il ne me dirait jamais ça, mais je l'ai entendu par personne interposée, mettons, qui n'était pas content. Mais ça, je m'en fous totalement.
Mais pourquoi? Mais là, il parle de quelle
équipe? Je comprends pas le lien, moi.
Ben oui, il parle de quoi, là?
De quelle équipe de hockey il parle?
Ben, je sais pas, là, peut-être.
Et pourquoi cette équipe de hockey-là serait pas contente, vu que, moi, j'ai entendu des rumeurs, mais c'est sûrement faux, l'histoire qui aurait pu s'inspirer d'un joueur connu à Montréal. Toi, Vez, en tant que gars de sport, là.
Non, j'ai rien entendu.
Hey, petite question en terminant, c'est très bon. Si Robert Lepage avait réagi de même, y aurait-tu la même histoire avec Slave et Kanata?
Oh,
Slave et
Kanata?
Si, regarde, il vient de dire, là, moi, je m'en fous. OK? Regarde, moi, j'écris, là. Si j'ai le goût d'écrire sur des rumeurs sur un joueur de hockey, sur les musulmans, je fais mourir qui je veux dans ma série, regarde, c'est de la fiction. Évidemment, les avocats passent là-dessus. Il y a une certaine prudence, mais une fois que les avocats ont passé en Wego, là, c'est de la fiction. Si Robert Lepage avait sorti dans les premières semaines du scandale en disant, regardez, ça, c'est ma pièce, là. C'est mon œuvre, c'est ma création. J'ai une liberté, puis le reste, là, regarde, les personnes qui se plaignent, la salle est pleine, il y a des gens qui aiment ça, si vous aimez pas ça, venez pas le voir. Est-ce qu'on aurait eu le même scandale si Lepage aurait eu les mêmes propos que Luc Dionne? Je fais juste poser la question.
J'aime beaucoup sa distance à Luc Dionne. Mais... tu sais, il est très, là, regarde, moi, je fais ce que je veux, puis je m'en fous. Puis les avocats vont corriger certains détails. Comme il m'a donné un exemple, il dit le personnage de Magali Lépine Blondeau, qui s'appelle Nadine Legrand dans la série, elle s'appelait au départ Nadine Meilleur. Mais on m'a dit qu'il y avait déjà eu un sergent de police à Montréal qui s'appelait Nadine Meilleur. Fait que là, ils ont dit, écoute, là, ça se rapproche un peu trop, ça, faut que tu changes le nom. Mais c'est des détails comme ça que les avocats vont corriger. Il dit le gros d'une histoire qu'ils viennent me baïonner, eux autres, pour voir. Puis il s'en fout vraiment, lui. Là. Il écrit ce qu'il veut, puis ils chialeront s'ils chialent.
Continuez de l'apprécier. Il y a certains épisodes qui vont chercher pas loin de 2 millions. Hein?
Oui. Le sommet, c'est un petit peu moins de 1,8 million, là, le sommet qu'on a vu. Là.
C'est énorme. Hey, c'est quasiment un Québécois, mettons, de langue française. C'est un Québécois sur trois.
C'est vrai.
À peu près qui regarde la série. Là. C'est beaucoup de monde. Alors bravo à Luc John. 7h56.
Doc Mailloux et José. Tout de suite après Bouchard en parle au FM 93.
Ici Jeff Caron, champion canadien des hommes forts. On n'est pas tous faits sur le même frame. Puis quand je regarde le rôle de Parkett Nissan, c'est évident qu'il a le physique pour affronter nos hivers sans broncher.
Pendant l'événement Traction intégrale intelligente de Parkett Nissan, loué sur 60 mois, le Rogue 2019, à partir de $59 par semaine avec léger comptant et épargnez $1000 sur la traction intégrale. Aussi, n'attendez pas que votre vieille minoune vous lâche en pleine tempête. Obtenez en échange $1500 minimum, taxes incluses.
1500?
Détails chez Parkett Nissan à Lévis.
Je vous parle de Solaris. Portes et fenêtres. Avec l'hiver qu'on vient de passer, votre résolution de changer portes et fenêtres au printemps, vous avez hâte, hein, d'être mieux isolé, vous allez sauver. C'est meilleur pour la maison, ça prend de la valeur, puis vous allez sauver sa facture de courant si vous êtes mieux isolé, vous le savez. Pas besoin de vous l'apprendre. Donc, pourquoi pas choisir votre date maintenant? Venez nous voir, là. Venez faire un tour chez Solaris, 710 rue Bouvier, la plus belle salle de montre au Québec. Vous allez choisir notamment vos produits et ensuite votre date d'installation au printemps en premier. Vous voulez faire ça vite, là, que ça soit réglé pour l'été, go! En plus, jusqu'au 31 mars, il y a Rénovaire. Ça, à un moment donné, ça va se terminer. 31 mars, fini. Rénovaire, là, il faut aller chercher un retour d'impôt jusqu'à 10 000 $. Nous, on va tout faire pour que vous alliez chercher le maximum. Venez nous voir dès aujourd'hui, Solaris.
Si vous avez besoin de vos lunettes de lecture pour lire vos courriels et vos textos, arrêtez de zoomer et faites corriger votre vue. Grâce à la presbyvision de LASIK-MD, voyez de près, de loin et de partout, sans lunettes à double foyer, verre à foyer progressif ni lunettes de lecture. Et pour une durée limitée, vous pouvez économiser jusqu'à 20% sur le coût de votre intervention presbyvision pour que vous puissiez profiter d'une vision claire dès aujourd'hui. Réservez votre consultation gratuite et sans obligation à lasikmd.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital 2017. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Ça y est, je suis tout en haut de la montagne. La vue est magnifique. Il fait moins 25 degrés Celsius et on a environ 60 cm de neige. Ici, rares sont les espèces qui grimpent aussi haut. Et, oh, on dirait... Mais oui, c'est bien un troupeau de hi-haw! Wow! C'est incroyable d'enfin les voir évoluer dans leur habitat naturel. Quand on a l'attraction intégrale légendaire de Subaru, c'est toute la province que devient votre terrain de jeu. Subaru, confiance et évolution.
Jusqu'au 18 février, c'est la grande liquidation d'hiver chez Sale. Équipez-vous pour profiter de la saison sous tous ses angles et obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection de manteaux, de bottes et d'équipements de sport d'hiver. Sale, la plus grande destination plein air. Tous les détails à sale.ca.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je renforce le bureau.
Mais pourquoi? Il est déjà assez solide comme ça.
parce que je viens de nous abonner à Internet 400 illimité de Vidéotron. Avec ça, on va pouvoir télécharger du gros, gros contenu bien, bien vite et des fichiers très, très lourds pour toute la famille. Faut que le bureau tienne le coup.
Ben voyons donc. T'as bien raison, je vais faire la même chose avec le meuble télé.
Jusqu'au 19 février, à l'abonnement d'un forfait télé fan de films et séries, obtenez Internet 400 illimité pour seulement 44,95 par mois. Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent.
Chez Physiothérapie Beauport, on vous offre un service d'exception en physio, masso et ostéopathie. Depuis 28 ans, on bâtit notre réputation sur votre satisfaction. Cessez de souffrir. Prenez vite rendez-vous. Visitez physiothérapiebeauport.com.
Ici Vicky pour Vicky vous le dit. La plupart des voitures ont besoin d'entretien tous les 6 mois. Pour les Volkswagen, c'est tous les 9 mois. Ça, c'est une différence de 3 mois. 3 mois, c'est aussi la durée de l'hiver. Et l'hiver, ça dure une éternité. Donc, la différence entre la maintenance des Volkswagen et des compétiteurs est une éternité. Et l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin.
L'entretien en 9 mois est recommandé pour une distance parcourue annuellement de 20 000 km. Pour plus de détails, visitez vw.ca.
Volkswagen. Walmart a tout ce dont vous avez besoin pour la Saint-Valentin à des prix imbattables garantis, comme les sacs de chocolat Kisses de Hershey's de 200 grammes à seulement 3,68 $ chacun. Walmart, économisez plus, vivez mieux.
Le jeune Fournier entre en zone adverse, passe au centre à Carrier, lance et le but!
Je vous invite au plus prestigieux tournoi d'hockey mineur au monde.
Le tournoi international d'hockey Pee-Wee de Québec.
Venez vivre une ambiance électrisante à petit prix.
8 $ pour les adultes, 2 $ pour les enfants quand même.
Ne manquez pas le temple de la renommée du hockey et les visites de joueurs de la LNH. Je vous donne rendez-vous au tournoi international hockey Pee-Wee de Québec
du 13 au 24 février au Centre Vidéotron.
Sylvain Bouchard, FM 93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
8h01 dans le trafic vers
ça vient...
à matin, ça va bien, là.
Ouais, ben là, ça vient tout juste d'arriver sur la 20 Est à l'approche de Lévis-Centreville. Là, il y a un accident, un véhicule en panne qui bloque une voie sur deux. Donc, c'est la 20 en direction Est, juste enfin, à peu près à mi-chemin là, entre la raffinerie et Lévis-Centreville. Pour le reste, ça va quand même pas trop mal, sauf sur le Henri IV. Là, ça ralentit bien avant d'arriver à Sainte-Geneviève, pratiquement jusqu'à Hamel. Laurentienne, on est à peu près à mi-chemin entre La Fonde et Jean Talon jusqu'à Capitale. Sur Capitale, direction ouest, à partir de Destimoville, c'est achalandé sans plus jusqu'à Laurentienne. Plus loin de Saint-Jacques jusqu'à Henri IV, là, c'est chargé. Charest, direction est de Legendre jusqu'à Robert-Bourassa. Et sur la rive sud, pour accéder au pont La Porte, là, les files d'attente sont quand même assez longues. Ça commence un petit peu après Taniata d'un côté et à l'halte routière de l'autre.
La circulation présentée par l'événement Traction intégrale intelligente de Packet Nissan à Lévis. Loué sur 60 mois, le nouveau Qashqai à $55 par semaine et épargner $500 sur la traction intégrale.
Les parents du tueur de la mosquée de Québec qui a reçu une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans estiment qu'il s'agit d'une peine très sévère. Dans une lettre transmise aux médias, Manon Marchand et Raymond Bissonnette plaident que la peine imposée à leur fils entre en contradiction avec l'approche de réhabilitation qui caractérise le système judiciaire canadien. Malgré l'envoi de 26 mises en demeure et l'embauche d'une firme de relations publiques pour gérer la crise, le PDG de l'aéroport Jean Lesage dit se foutre du blabla local. Guetta Gagné a réagi sur nos ondes à la lecture des conclusions du rapport du comité de travail sur l'accessibilité aérienne qui critique sa gouvernance. Et le Maurice ne renaîtra pas de ses cendres. Selon Soleil, le jeune homme d'affaires qui souhaitait faire l'acquisition du bar n'est pas parvenu à boucler son financement. Charles Camoun souhaitait réinventer le concept de nightlife en proposant un bar-spectacle novateur.
Le Canadien joue son prochain match jeudi à Nashville. Hier, le Canadien fait l'acquisition du vétéran attaquant Nate Thompson des Kings de Los Angeles. On va devoir cependant placer un joueur au balotage ce midi. Dans les matchs d'hier, soulignons que les Penguins de Pittsburgh ont fait subir un premier revers au gardien de but des Flyers, Carter Hart, après 8 victoires en 8 matchs. Les Penguins l'emportent 4-1 et se rapprochent à 4 points du Canadien au classement.
Et c'est du soleil ce matin, Québec. Profitez-en parce que la tempête, la pire tempête de l'hiver, possiblement, ça commence dès ce soir à 21h et ça se poursuit jusqu'à demain après-midi. On attend 25 à 40 cm en tout avec de la poudrerie parfois forte aussi pour demain. Maximum de moins 12 pour aujourd'hui et moins 8 pour demain. À Québec, il fait moins 23.
La météo présentée par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Venez vivre le bonheur d'en avoir pour votre argent. Découvrez le Sorento 2019, bien équipé à partir de $29,295 avec traction intégrale sans frais durant l'événement Dompté l'hiver. Et on est ouvert le samedi.
FM 93, ça me parle.
8h04. Tu veux me parler de la tempête, Vince?
Oui, oui, oui. On la suit d'heure en heure.
De minute en minute même.
Là, la tempête était à Toronto tantôt, à Oshawa ensuite. Là, l'approche de Kingston, qui est au, à cette extrémité-ci du lac Ontario. Alors, ouais.
C'est assez impressionnant quand même sur l'image.
Alors, ça oh, sent, oui, c'est une grosse masse, bien, oui. Une grosse masse de tempête.
Ouais.
Il est possible qu'on ait une grève bientôt à l'Université Laval, une grève étudiante. On a déjà vu ça dans le passé pour les braises et bourses, carrés rouges, différentes causes. Mais là, selon moi, ce serait une première. Alors, les gens de Laval qui m'écoutaient, ça se peut que vous tombiez en grève pour l'environnement. C'est un mouvement qui est apparu dans d'autres pays.
En Suède, notamment, dans les pays scandinaves.
Oui, puis je pense que sur les campus américains également, oui. Ça s'est répandu. Et là, il y a des gens qui militent, on va les rejoindre d'ailleurs. Il y a des jeunes étudiants et étudiantes qui militent ici au Québec pour que les universités tombent en grève pour l'environnement. Ça veut dire, oui, mais comment ça, là? Et là, c'est... Ils attendent quoi? Est-ce que ça va être une simplement des journées de mobilisation ou une grève à long terme? Qu'est-ce qu'ils réclament exactement comme changement dans la société? On va aller rejoindre Léa Hilardeau. Elle est cofondatrice du collectif La planète s'invite à l'université. Madame Hilardeau, bon matin.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qui est... Je l'ai dit un peu, évidemment que c'est la cause environnementale qui est derrière ça, mais quel a été un peu l'élément déclencheur? Pourquoi vous pensez qu'il y a urgence et qu'on doit même faire des grèves dans les universités?
Ben, en fait, pour moi et mon petit groupe qui avons créé La planète s'invite à l'université, on a un peu tous des raisons individuelles qui nous ont poussé à nous engager plus, mais c'est vrai que on a tous ressenti un profond besoin d'urgence parce que vous savez, en décembre, il y a eu la COP24 en Pologne et puis les conclusions étaient très décevantes. On entend en octobre 2018, c'était le rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui nous donnait des scénarios vraiment catastrophiques si la température de la planète s'élevait à plus de 1,5 degré. Donc voilà, il y avait vraiment, moi aussi individuellement, c'est vrai que j'ai toujours été engagée au niveau individuel. Je suis dans des associations étudiantes qui essayent de promouvoir l'écologie et puis je voyais que toute seule, ça marcherait pas. En fait, au tout départ, je pensais que individuellement, c'était aux citoyens de faire leur part, que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fonctionnerait. Et en fait, je me dis qu'on s'épuise et que même si tous, on sait que c'est nous qui avons du pouvoir, par exemple, acheter, c'est voter, etc. On nous dit tout le temps des choses comme ça, mais à remettre tout le temps la faute sur nous, les citoyens, on sait très bien qu'aujourd'hui, étant donné l'urgence, des changements radicaux au niveau institutionnel et au niveau des États doivent être entrepris. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller encore plus loin, en fait.
Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Parce que évidemment, quand on fait un mouvement, ça peut être large comme revendication, mais surtout dans un domaine comme l'environnement. Mais on est habitué de voir certaines grèves dans les institutions scolaires avec des revendications précises. Là,
oui, ben,
vous avez parlé du contexte un peu, mais précisément, vous réclamez quoi des gouvernements?
Alors en fait, on a trois principales revendications. Donc la première, c'est d'établir, comme on est étudiant, en fait, on sait très bien que l'éducation, elle joue un rôle très important. Et donc notre première revendication, c'est que les gouvernements établissent un programme d'éducation à la crise, enfin en tout cas de sensibilisation à la crise climatique et puis à l'écologie. Nous, ça nous paraît très important que la population soit sensibilisée parce qu'aujourd'hui, quand on entend, enfin voilà, il y a les médias en parlent beaucoup, on essaye un peu de vulgariser tout ce que le GIEC nous dit, mais ça reste des termes très scientifiques et donc ça nous semble très important qu'aujourd'hui, même les plus jeunes, en tout cas, soient informés de tout ça pour qu'aussi nous, on puisse changer individuellement. Ensuite, on demande au gouvernement donc d'établir de voter une loi climatique qui l'oblige en fait à respecter les recommandations du GIEC, c'est-à-dire de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030 et d'arriver à la carboneutralité en 2050. Aujourd'hui, le Québec, en tout cas, avait un plan pour 2020 qui était de réduire ses émissions de 20% depuis 1990. Et aujourd'hui, on est à 9,1%. Donc, en fait, il ne nous reste qu'un an. Et donc, on sait très bien que ça va être manqué. Sauf que comme ce n'est pas dans la loi, c'est juste un plan, il n'y a rien de contraignant, en fait. Et donc, nous, on veut que nos gouvernements s'engagent à aller plus loin. Et enfin, notre dernière revendication, elle s'adresse plutôt à nos institutions d'enseignement et nos universités. On souhaite qu'elle soit plus transparente et puis que pour celles qui ont beaucoup d'argent à investir, moi je suis étudiante à l'Université de Montréal et on sait, il y a un comité qui, qui existe, qui s'appelle UDM sans pétrole, et qui milite pour que l'université désinvestisse son argent des énergies fossiles. Et donc, on demande à nos universités de tout simplement désinvestir leur argent des énergies fossiles et aussi d'établir de faire un bilan carbone pour savoir où sont les domaines où chaque année elle émet le plus d'émissions et puis d'essayer de réduire ses émissions.
OK, donc, grosso modo, les revendications. En quoi le fait de ne pas aller à vos cours pendant une journée ou plus va faire en sorte de faire pression sur ces gens-là pour appliquer vos revendications? Parce que vous n'êtes pas des travailleurs à l'école, vous recevez un service. L'université donne un service, vous comme étudiant, vous avez payé pour recevoir un service. Si vous n'allez pas à vos cours, vous vous pénalisez vous-même. J'ai de la misère à comprendre quelle est vraiment l'utilité du moyen de pression. Si vous n'allez pas à vos cours, vous vous pénalisez vous-même?
Mais en fait, déjà, on a déjà vu, alors que le mouvement vient d'être lancé, que il y a un grand nombre de professeurs qui sont derrière nous. Et puis, c'est vrai qu'on parle d'étudiants d'université, mais la plupart des étudiants aujourd'hui travaillent également à côté. Mais en fait, c'est vrai que la grève, surtout que nous, on voit bien là partout dans le monde, il y a des étudiants qui vont chaque semaine dans la rue, etc. Et que nous, c'est pas pour l'instant ce qu'on prévoit de faire. C'est vrai qu'on préfère s'appuyer sur 2 jours de grève qui soient votés en Assemblée générale et par les associations.
Mais ma question, c'est en quoi le fait de vous priver d'enseignement et de cours, de retarder votre formation, de refuser un service pour lequel vous avez payé, en quoi ça va changer quelque chose concernant vos demandes qui sont légitimes sur l'environnement, qu'on soit d'accord ou pas, vous avez le droit de revendiquer ça. Mais je comprends pas la stratégie, le moyen.
Mais en fait, déjà aujourd'hui, on est beaucoup... en tout cas, tous ceux qui se sont engagés à ne plus savoir pourquoi c'est plus pertinent, moi, par exemple, chaque matin, de me lever pour aller étudier alors que je sais très bien. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on doit tous être tournés pour trouver des solutions et pour engager des changements radicaux parce que moi, chaque matin, aller étudier, des fois, je trouve ça plus pertinent alors que je vois que rien n'est fait. Donc, au niveau de nous pénaliser, etc., je pense que l'inaction de nos gouvernements aujourd'hui nous pénalise bien plus, en tout cas nous.
Ouais, mais rajoutez-en pas. En allant à l'école, en allant chercher des informations, vous allez être des citoyens encore plus conscientisés, informés. Continuez d'aller à l'école, refusez pas ça.
Si pendant une journée ou deux, là on a demandé, ce sont des jours déjà, le 15 mars c'est un appel mondial à la grève pour étudiantes pour le climat, et si il y a tous les étudiants, si on arrive à ramener un nombre significatif d'étudiants dans la rue le 15 mars, que ce soit des étudiants du secondaire ou des universités, c'est seulement par le nombre qu'un rapport de force pourra s'établir, en fait. Et ça, on en est convaincu.
Non, mais vous pénalisez pas le gouvernement, ni les pollueurs, ni etc. Là, je comprends qu'il y a des gens... Vous pénalisez vous-même.
Nous, à notre échelle, faire beaucoup plus... On peut pas faire beaucoup plus...
Vous avez le droit, de marcher dans la rue.
On a le pouvoir de les alerter et de leur dire non, on n'est pas d'accord et on ne va pas vous laisser ne rien faire ou en tout cas manquer vos objectifs et vous déresponsabiliser. Donc nous, on a le pouvoir de dire qu'on s'y oppose et c'est comme ça qu'on pense que la grève est pertinente parce que si tous les étudiants... une grève dérange dans tous les cas. Ça dérange et les institutions d'enseignement, parce qu'aussi, on s'adresse dans nos revendications à nos institutions. Donc, si tous les étudiants disent non, on ne veut plus venir dans notre université...
Ça, vous avez raison, ça dérange, je vous le donne. Ça va déranger l'Université Laval, ça va déranger l'Université de Montréal. Mais quand on regarde la situation de la pollution au Québec, là, pensez-vous que le projet de ciment McInnis, qui est une cimenterie polluante que le gouvernement va installer en Gaspésie, prenons ça comme exemple. Pensez-vous que eux, là, ils vont reculer sur cette cimenterie-là parce que l'Université Laval a des problèmes avec ses cours un peu parce qu'il y a une grève? Je pense pas que vous vous attaquez aux bonnes cibles. Les maisons d'enseignement, bon, évidemment, sont responsables d'une certaine pollution, comme tout le monde, là, mais je pense pas que c'est l'Université Laval ou l'Université de Montréal qui sont responsables de la pollution au Québec. Vous devriez vous en prendre à d'autres cibles, à mon avis. Je trouve que la grève est le mauvais moyen. Allô? Est-ce que Mme Hilardeau est encore là?
Oui, je suis toujours là, oui.
Oui, alors je vous disais, vous n'allez pas pénaliser les bons pollueurs. Je pense pas que l'Université Laval, ici à Québec, fait partie des grands pollueurs.
Il y a Alizée qui est en même temps en ligne. Je sais pas si vous
qui veut nous parler. Bon, on va aller la rejoindre. On a Alizée Girard également, qui est une des porte-paroles du mouvement. Je pense qu'elle a entendu la question. Madame Girard, bon matin.
C'est ça.
Oui, bon matin.
Bon, alors j'étais en train de demander à votre collègue, pourquoi vous pensez qu'une grève étudiante est un bon moyen? En quoi ça vient punir les pollueurs?
Bon, dans un premier temps, Mme Milardeau en a parlé déjà. Moi, j'aimerais rajouter que on a essayé les pétitions, on a essayé les actions individuelles, tout ça, ça fonctionne pas. Les gouvernements continuent à s'opposer à l'adoption d'un projet de loi qui les contraindrait à respecter leurs cibles, etc. Donc, nous, on essaie un nouveau moyen par la grève et on n'exclut pas non plus de poursuivre, d'aller un peu plus loin là-dedans, d'aller plus loin que deux journées éventuellement, si nos demandes sont pas entendues. Et on va pas nier non plus que les grèves, justement, dérangent et bousculent le système.
Mais ça dérange pas les pollueurs. Ça dérange les étudiants, les étudiantes, les professeurs, les professeurs. Ça dérange pas les pollueurs.
Ça dérange les institutions, comme on vient de dire. Ça dérange le gouvernement également. On n'oubliera pas les grèves de 2012 qui ont bousculé le Québec et qui ont parti un débat de société. Ça, c'est une de nos...
Il y a une différence majeure entre les impacts budgétaires d'une réforme des prêts et bourses et ce que vous demandez au niveau de l'environnement. D'ailleurs, j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Je sais que les gouvernements ne veulent pas accepter de mesures de contrainte parce qu'ils disent que ce n'est pas réaliste. Ce que vous demandez, là, concrètement, admettons que le gouvernement vous dit oui, puis passe une loi contraignante, puis adopte ces mesures-là, ça va demander quoi comme effort à la société? Vous êtes-vous déjà interrogé, par exemple, sur le nombre de véhicules qu'il faut enlever, par exemple,
la
route?
Oui. Vous avez parlé de la cimenterie tantôt, ça c'est un exemple. C'est un projet qui ne pourrait pas être mis en grange par le gouvernement si la loi est passée. Donc, ça contraindrait le gouvernement à refuser des projets tels que la cimenterie ou à compenser pour ces projets-là. Les projets comme la pétrolière qui essaye de s'implanter en Gaspésie, le projet... Énergie Saguenay, gazoduc, qui essaye de s'implanter également. Ça, c'est tous des trucs qui
mais vous avez déjà fait le
arriver.
Mais vous avez déjà fait le décompte, là. Mais on n'arrive pas, là. On n'arrive pas aux cibles qui ont été fixées, qui sont, à mon avis,
mais moi, non, exactement, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Donc, cette loi-là obligerait le gouvernement. Donc, on demande également à ce que cette loi-là, dans le fond, qui serait adoptée, elle amènerait à investir dans les énergies renouvelables versus tout ce qui est énergie fossile. Ça, c'est un de nos objectifs.
Combien de véhicules il faudrait enlever des routes?
L'économie.
Est-ce que vous avez déjà regardé combien de véhicules il faudrait enlever des routes pour atteindre ces cibles-là qui ont été fixées à l'international? Moi, j'ai déjà vu ça. Mais c'est complètement irréaliste.
Il faudrait être contraint à le faire.
C'est pas réaliste. Vous savez très bien que c'est complètement impossible.
Oui, non. C'est réaliste parce qu'en fait, les technologies existent. Il n'y a juste aucune volonté politique. Nous, on demande la volonté politique pour le faire.
Okay.
Donc, on va contraindre le gouvernement à adopter des lois contraignantes pour que lui, ensuite, soit obligé de faire ces transitions-là. Parce qu'en fait, qu'on ait le choix ou qu'on pense qu'on ait le choix ou pas, l'urgence climatique, elle est là.
Exige ça.
Et nous, on n'a pas l'intention de se laisser faire par rapport à ça.
Juste en terminant, admettons qu'on enlève... Bon, vous dites on va les forcer. Alors, on enlève un char sur deux au Québec. Évidemment, tout est possible sur le papier. Moi, je pense que c'est pas réaliste, mais admettons que votre grève fonctionne, le gouvernement vous donne raison, puis on enlève un char sur deux. Vous êtes au courant que l'économie va s'effondrer complètement. Et moi, je pense que pour réaliser les défis, pour réussir les nombreux défis que les changements climatiques nous amènent, ça va prendre une économie forte, ça va prendre des universités qui sont pas en grève,
oui,
avec des chercheurs financés pour trouver des solutions. Juste finir. Pour trouver des solutions techniques et technologiques. Vous pouvez pas scraper l'économie en un an comme ça. On y arrivera pas. Allô?
Oui, je vais laisser Léa parler.
Oui, vas-y. Vous écoute.
Est-ce que vous m'entendez?
Très bien. Allez-y.
Ah, parfait. Oui, c'est vrai qu'on nous dit toujours, vous rendez compte, l'économie va s'effondrer, mais aujourd'hui, il y a les scientifiques et les économistes qui s'accordent pour dire que le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action, justement. Donc, aujourd'hui, en fait, même les arguments économistes, ils ne marchent plus parce que on sait très bien que les dégâts qui vont arriver dans 10 ans, ils vont nous coûter bien plus qu'aujourd'hui établir des changements radicaux, c'est-à-dire, oui, en effet, trouver des solutions pour qu'on enlève des voitures du parc automobile ou en tout cas qu'elles arrêtent de rentrer en masse, parce qu'aujourd'hui, depuis les années 90, c'est le plus gros pourcentage d'émissions au Québec, dans toutes les émissions du Québec, c'est les voitures, le parc automobile, voire les petites fourgonnettes. Donc, on sait très bien qu'il y aura des choses difficiles et, enfin, qu'on imagine, on a du mal encore à imaginer les changements, mais en même temps, on a encore plus de mal à se dire tous les dégâts qu'on va devoir subir plus tard.
Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. Le débat, évidemment, est vaste. On va voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans les universités. Merci beaucoup à vous deux pour le débat, de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Léa Éliardeau et Alizée Girard veulent sont cofondatrices du collectif La Planète s'invite à l'université. Ça va se faire ici, en pensant ça va arriver. Là, ouais. Il y aura des grèves dans les universités, j'en suis convaincu, parce que le mouvement est mondial, puis ça va embarquer. Alors, qu'on soit d'accord ou pas, préparez-vous à Laval, vous serez en grève bientôt. L'Université de Montréal, l'UQAM, devra aussi embarquer. Il y a des réunions d'associations étudiantes un peu partout. Je suis pas devin, là. Peut-être qu'il y en a qui vont refuser, en disant un peu comme moi, ben non, ben c'est pas le bon moyen. Mais ça a l'air d'être parti très, très fort, selon ce que je vois. Sur le fond, on peut continuer le débat. Sur la forme, je suis vraiment, vraiment pas d'accord. Eux pensent qu'on est rendu là. Je vois pas en quoi le fait de ne pas aller suivre ses cours va améliorer la cause de l'environnement, faire pression sur le gouvernement. Vous allez pénaliser des maisons d'enseignement dont on a grandement besoin pour relever les défis climatiques. On a besoin des chercheurs de Laval, de l'UDM. On n'a pas à mettre ces institutions-là en grève. On en a besoin pour ça, pour l'environnement et plein d'autres choses. Mais bon, je pense que surtout au Québec, avec ce qui s'est passé avec les carrés rouges, parce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné, là, les carrés rouges, qu'ils se disent, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire pour arriver au but.
Faut que le mouvement soit, tu sais, pour que ce soit de la même ampleur que les carrés rouges, il reste encore
bonne
des
chance.
Croûtes à manger.
Ouais, c'est pas bonne chance. Mais quand des travailleurs font la grève, c'est pour pénaliser l'employeur qui se voit privé de son moyen de production. Quand un élève va pas à ses cours, il se pénalise lui-même.
Parce qu'il paye pour ça, pareil. Là. L'université ne te remboursera pas parce que tu fais la grève pendant 2 semaines. Là. Tu payes tes cours quand même.
Ceci étant dit, par rapport, mettons, à 2015, le fameux mouvement qu'on ne savait pas trop c'était contre quoi, je suis quand même relativement un peu plus sympathique à cette cause-là parce que ça me semble plus altruiste. On est d'accord sur le moyen, je pense pas que ça donne grand-chose.
Non, ça donne rien.
Mais ça ne semble pas être égoïste comme motivation. Il y a quand même des bonnes intentions derrière de ça. Alors, je suis moins hostile à un type de grève.
Ouais, mais écoute, ben, admettons que j'achète de quoi chez Walmart, puis je suis fâché, puis je ne vais pas le chercher. Tu sais, je l'ai acheté, je l'ai payé, mais je dis, je m'en sers pas.
Ça va
pénaliser Walmart. J'ai acheté de quoi chez eux. Il est chez nous, il est rendu, il est payé. J'annonce publiquement que je me servirai pas de ce que j'ai acheté chez Walmart.
Ben, Walmart,
non. Pas moi, Walmart, bon Dieu, regarde.
Parce qu'ils s'en foutent pas mal.
Ouais.
Mais tu l'as payé, c'est ça qui nous intéresse.
T'as payé pour tes cours à Laval.
Oui, c'est ça.
Même si on dit l'éducation est gratuite, c'est pas tout à fait vrai.
Non,
elle
non,
est, c'est la moins chère en Amérique du Nord, mais il y a un paiement, là. Tu payes tes livres. Tu payes
Tu payes tes sessions aussi. C'est pas gratuit, l'université.
Il y a un coût. Si tu y vas pas, c'est pas le bon moyen de pression.
En fait, ça met pas de pression sur personne.
Non.
Ça va peut-être faire parler de la cause, mais ça met pas de pression sur personne.
Il y a plusieurs réactions, 25-226. Il y a surtout beaucoup d'insultes. Là. Je pense que vous pouvez faire passer votre message sans traiter les filles de ci pis de ça. Là. Mais je te dirais que c'est pas mal 100% unanime. Là. Les gens sont pas du tout d'accord avec eux autres.
Avec le moyen de pression.
Avec le moyen de pression. Quelqu'un nous dit, de toute façon, ça sert à rien de faire ces moyens-là ici tant que la Chine réduit pas son empreinte environnementale. C'est sûr qu'ils ont un impact assez gros sur l'empreinte globale, là, disons.
Ça, c'est intéressant dans le débat. Je vais répondre tout de suite. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on me dit que la cible pour le Québec, faudrait que tu enlèves la moitié? C'est ça que j'ai demandé. Non. Je veux savoir pour atteindre la cible qu'eux, ils veulent. Là. Combien de chars faudrait enlever de la route? C'est ça que je veux savoir. C'est combien? Moi, je pense que c'est irréaliste. C'est pourquoi les gouvernements refusent d'adopter des lois contraignantes. Tu peux pas scraper l'économie. On a besoin des maisons d'enseignement. On a besoin d'une économie forte pour relever les défis que pose l'environnement. Demain matin, tu enlèves un char sur deux au Québec d'ici un an. C'est complètement irréaliste. Je vous dis pas que c'est ça, là. Je donne ça en exemple. D'ailleurs, je me demande si en enlevant un char sur deux, on y arrive. Je suis même pas sûr qu'on y arrive. Faut qu'on enlève 2,2 millions de chars.
Sur combien?
Sur 4,5.
Ben, c'est pas mal la moitié. Ouais.
Le débat est terminé. Je m'excuse, c'est irréaliste. Mais bon, ils sont jeunes, ils rêvent. Non. Eux, ils vont dire, oh, oui, ça prend ça, faut que ça fasse mal, parce que sinon, ça va être trop tard, la planète. Je comprends, mais écoutez, j'ai plus confiance que vous. Je pense que la science, Je pense que les maisons d'enseignement, les chercheurs, la technologie vont nous arriver avec de quoi pour répondre à ces défis-là. Ils sont là. Moi, je les nie pas, les défis. Mais je suis un optimiste. Si demain matin, t'enlèves 2,2 sur 4,5, j'étais pas loin. C'est quasiment un char sur deux. Imagine-toi en région, là. Pensez un peu aux gens des régions, là. Pensez pas juste à Montréal où il y a le métro, là. T'annonces à tout le monde, là. Il faut qu'il y ait un char sur deux, d'ici un an ou deux, qui disparaissent de la circulation. C'est impossible.
Ou qui change de voiture à essence à voiture électrique. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas un Québécois sur deux qui est capable de se payer une voiture électrique au moment où on se parle.
Je vois pas en quoi l'environnement en sera amélioré. Ça va être pire. Parce que l'économie va s'effondrer à court terme.
Caroline nous écrit au studio commercial FM93.com. À mes yeux, cette grève des étudiants ne fait que nuire à leur crédibilité. En tant que futurs travailleurs, quels employeurs vont vouloir embaucher des personnes qui n'ont qu'un seul but, ce qui est de faire
pas le bon
la
moyen.
Grève? Là?
Moi, je pense que le moyen n'est pas beau. La cause, on peut en discuter, ils ont leurs opinions, c'est tel que tel, je respecte leur point de vue, mais le moyen n'est pas bon.
Ensuite, quelqu'un nous dit, pourquoi enlever des autos quand c'est l'économie principale? C'est sûr qu'idéalement, c'est qu'il y en aille, que ça n'aille pas en augmentant, disons, le nombre de voitures, là. Sauf que c'est vrai que pour l'instant, c'est une grosse partie de l'économie. Ensuite, quelqu'un nous dit 100% d'accord avec leur moyen de pression. Il n'y a pas plus de commentaires que ça. Fait que ça serait intéressant.
D'accord,
de...
mais dites-moi, non, en quoi dites-moi juste en quoi ça va. L'argument, c'est moi, je dis que ça ne donnera rien de se pénaliser d'aller à ses cours. Alors, si vous pensez oui.
Ensuite, quelqu'un nous dit ce serait intéressant de savoir si ces deux jeunes filles ont des voitures elles-mêmes. On ne le sait pas. On aurait pu leur demander, mais non. C'est vrai,
j'imagine
on
que non. J'imagine que non.
Ben, Catherine Dorion en avait un finalement. Elle
j'ai pas
un,
osé,
finalement.
Mais j'imagine que non. J'aurais peut-être dû.
Ensuite, Pierre nous dit les profs universitaires sont avec ce groupe, elles l'ont dit. C'est assez capoté. C'est probablement pas tous les profs universitaires, là, même s'il y en a qui les appuient. C'est ça, ça reste à voir. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui soulignent le fait que les professeurs, effectivement, sont derrière eux. Là, ça a cru, on dirait que ça a titillé beaucoup de personnes. Ensuite, quelqu'un nous dit, quand l'économie va s'effondrer, vont-ils accepter leur augmentation du coût des sessions? Alors, c'est sûr que si l'économie va mal, il y a beaucoup de choses qui vont augmenter dans le prix.
Non, non, eh bien, c'est un bon point. Si l'économie s'effondre, on n'a plus les moyens de financer les universités, on n'a plus les moyens de financer les programmes de recherche, on n'a plus moyen. Ben non, c'est pas la solution. Il faut que ça soit réaliste. Oui, il faut faire des changements, mais réaliste. Hey, mais par contre, je vais aller contre un des arguments, là. Ça, je l'entends régulièrement. On n'a rien à faire au Québec, c'est la Chine. Anyway, quand même qu'on fait de quoi, le Québec, ça représente rien sur la pollution, c'est la Chine. Ben non, pensez-y, là. Je comprends l'argument, on l'entend, c'est à Québec en masse. Pas d'affaire à rien changer. Québec, c'est une miette, c'est rien. Ben non, c'est une question de morale. Voyons, les amis, oui, vous avez raison, la Chine doit changer. L'Inde aussi, ce sont les deux pays les plus polluants. L'Afrique doit changer. Mais si on leur demande de changer... puis on fait rien.
Non, c'est ça, là.
Comment voulez-vous moralement vous donner une position morale d'autorité de dire à la Chine sois plus verte alors que nous autres on s'en sacre parce que le Québec est petit? Ben oui, il faut que ça commence chez vous. Tant qu'à ça, prenons les déchets. Je pense que les déchets c'est unanime qu'il y a personne qui veut produire trop de déchets. Non. Ça c'est pas de la droite, de la gauche, là. C'est du gros bon sens. Ouais. Ça coûte une fortune aux villes ramasser des déchets. Vous êtes d'accord? Mm-hmm. Moins il y en a, tout le monde est gagnant. Ben moi je représente quoi par rapport à toutes les entreprises. Pourquoi je recycle? Je suis juste pas recyclé. C'est quoi Sylvain Bouchard sur les millions de Québécois? Je m'en sac, je recycle pas. Je cave, hein? Vous me traitez toutes de cave.
C'est
un
argument.
Ben, c'est l'argument qu'on entend que le Québec a pas à prendre de mesures environnementales parce que la Chine est plus polluante.
Mais non.
Oui, il faut commencer.
À quoi ça sert, les droits humains? Il y a plein de pays qui bafouent les droits humains.
Tant qu'à ça, on pourrait dire, oh, sans ça, moralement. Lâchez-moi avec la... Vous avez raison. La Chine, ça doit être, je sais pas combien de fois, plus polluant que le Québec, là. Mais il faut commencer. Comme le recyclage, moi, j'en fais chez nous. Mais je suis conscient que l'usine à côté de moi, et effectivement, si elle recycle pas, ou l'autre qui fait... Oui, mais... Justement, si je veux les critiquer, faut que je sois logique et cohérent. Donc oui, le Québec a sa part. Faut pas non plus se prendre pour meilleur que d'autres, puis en faire plus qu'ailleurs, puis scraper l'économie. Mais oui, le Québec doit faire sa part contre la pollution.
Mais faire le minimum, c'est du gros bon sens. C'est pas de la politique, ça, là. Fait que y a un parti ou un groupe qui essaye de s'approprier du gros bon sens pour en faire de la politique.
Non, mais il y a des extrémistes encore des deux bords. Il y a ceux qui veulent rien savoir. On n'a rien à foutre au Québec de ça parce que c'est la Chine. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui voudraient enlever un char sur deux de la route, là. Moi, je pense qu'entre les deux, c'est plein de citoyens gros bon sens qui recyclent, qui font attention, qui essayent de faire moins de déchets, qui sont presque à ce qu'il y ait un Québec plus vert, mais qui veulent conserver l'économie.
Ensuite, quelqu'un
avec
nous
un
écrit.
Peu de confiance.
Quelqu'un nous écrit, voilà, c'est pas cohérent. Il y a plus d'étudiants en auto qu'il y en avait avant. Mais il ne faut pas oublier que ces filles-là ne parlent pas au nom de tous les étudiants du Québec. Je suis certaine qu'il y en a des étudiants qui écoutent ce matin qui disent non, non, moi, ça ne me représente pas du tout ça. Fait que oui, il y a plus d'étudiants en auto qu'avant, mais il y en a plein qui n'adhèrent pas à leur groupe non plus.
Bon,
là.
Mais si un étudiant qui fait du covoiturage, si un étudiant qui a un véhicule électrique, si un étudiant qui n'a pas le choix d'avoir un char parce qu'il reste loin, il ne faut pas commencer à diaboliser puis à pénaliser. Là. Ça prend des solutions. Il faut travailler, mais il faut se donner du temps un peu. Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est trop tard.
Ben c'est ça. Ben quelqu'un va dans ce sens-là, justement, mais tu viens d'y répondre. Il dit, quelle perte de temps ces discussions. On représente 1% du monde pollueur. On va se faire suer collectivement alors que 99% du monde va continuer à polluer. Mais c'est pas une raison pour pas en faire zéro.
Alors
là.
Que les Chinois fassent des sacrifices, mais nous autres, vu qu'on est juste 1%, on s'en sac puis on fera rien. Comment vous allez réussir à faire ça? Comment vous allez négocier? Comment n'importe quel pays occidentaux pourrait rencontrer la Chine puis demander des sacrifices alors qu'il fait rien dans sa cour? Voyons. Ça circule, c'est parce que ça sert un peu à déculpabiliser des gens. Puis de garde, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre, puis c'est pas grave. Fait que si le voisin, dans le fond, pollue, mettons que vous avez un voisin qui recycle pas, puis il produit plus de déchets que vous, ben ça vous donne le droit de pas recycler.
Voilà.
Moralement, ça, mec, ça marche.
Mon voisin, il a 4 chiens, il fait caca à terre, il ramasse pas. Moi, j'ai juste un chien, donc je fais moins de caca qui traîne à terre, donc je ramasse
pas. Je suis pas obligé de ramasser.
Et on va pousser votre raisonnement plus loin, là. Ça veut dire que tous les pays du monde, à part la Chine, devraient rien faire.
Absolument. Voilà.
On est une belle planète, hein? Mm-hmm. Oh, vu que, ouais, mais nous autres aussi, la Chine est plus polluante, on fait rien. Il y a une logique là-dedans. Honnêtement, c'est imparable. 8h31.
Bouchard en parle, présenté par Matelas Dauphin, qui vous offre tous les formats de matelas, collection hôtel inspirée de l'hôtellerie de luxe, à moitié prix taxes payées, jusqu'à dimanche dans tous les Matelas Dauphin.
Sylvain Bouchard, FM 93.
93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez
Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
Dans le trafic, Vez, comment ça marche?
Ça va pas mal mieux. Bon. Par contre, je vous rappelle qu'on a toujours un véhicule en panne sur l'autoroute 20, direction est, après le chemin des îles. Donc, il y a un bon refoulement qui commence à partir de Taniata. Dans l'autre sens, pour accéder aux échangeurs qui mènent au pont La Porte, il n'y a pratiquement plus d'attente pour entrer dans les échangeurs. Il reste encore un peu de monde dans l'entonnoir. Sur Henri IV, direction nord, à partir de Quatre-Bourgeois, là, c'est achalandé, sinon bien au ralenti, jusqu'en bas à Charest. Sur Charest, direction est, secteur Blaise-Pascal, c'est lourd. Également, Henri IV en direction sud dans le secteur Chauveau. Et Laurentienne à partir de Louis XIV également. Et sur Capitale en direction ouest à partir de Robert Bourassa jusqu'à Henri IV, c'est chargé.
La circulation présentée par Solaris Québec Porte et Fenêtre. Allez les voir maintenant, le crédit Rénovaire se termine le 31 mars. Solaris Québec Porte et Fenêtre au 710 rue Bouvier.
Malgré l'envoi de 26 mises en demeure et l'embauche d'une firme de relations publiques pour gérer la crise, le PDG de l'aéroport Jean Lesage dit se foutre du blabla local. Qu'étant gagné, a réagi ainsi sur nos ondes à la lecture des conclusions du rapport du comité de travail sur l'accessibilité aérienne qui critique sa gouvernance. Et la GRC a procédé à démanteler un réseau mondial de blanchiment d'argent qui avait des ramifications jusqu'à Montréal. Selon la GRC, les individus visés par les mandats d'arrestation facilitaient la collecte d'argent auprès de groupes criminels pour ensuite blanchir le fruit de leurs activités illicites.
Le Canadien joue jeudi à Nashville contre les Prédateurs. Le Canadien a fait l'acquisition hier du vétéran Nate Thompson des Kings de Los Angeles. Et au tennis, après être grimpé au 103e rang du classement mondial, le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné hier au premier tour du tournoi de Buenos Aires en Argentine.
Et c'est du soleil ce matin, Québec. Profitez-en parce que la tempête commence ce soir autour de 21h et ça se poursuit demain mercredi jusqu'en après-midi. On attend 25 à 40 cm environ. Maximum de moins 12 degrés pour aujourd'hui et moins 8 pour demain mercredi. Ce sera accompagné de poudreries parfois fortes aussi. À Québec, il fait moins 22.
La météo présentée par Décapeur AC qui redonne vie à vos armoires de cuisine et meubles en bois selon les tendances d'aujourd'hui. C'est bien moins cher que de tout changer. Pour une soumission en ligne, visitez décapeur.com.
FM 93, ça me parle.
Scoop Vision. Je vous parle de Scoop Vision, les lunettes au prix d'Internet, mais en succursale. Ça fait longtemps que je vous en parle. J'espère que vous êtes déjà allé faire un tour dans l'une de nos 4 succursales. Vous avez le choix parmi plus de 1000 montures en magasin et le prix, c'est à partir de 79 $ seulement, verres et montures. Et avec ça, vous avez tous les avantages d'une succursale, les conseils, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Et là, c'est à partir de 79 $, c'est sûr, mais si vous préférez les lunettes un petit peu plus haut de gamme, on a une grande sélection de grandes marques aussi où vous pouvez choisir. Et profitez-en dès maintenant parce qu'on a une super promotion, 25 % de rabais sur la deuxième paire de lunettes. Alors, à ce prix-là, achetez-vous une nouvelle paire de lunettes fumées aussi, tant qu'à ça, l'été s'en vient. Pas bientôt, mais ça s'en vient quand même. Alors, Scoop Vision sur Soumande, près du Pacini, au 63 Kennedy à Lévis, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, et maintenant sur Quatre Bourgeois, juste en face de la gare d'autobus, scoopvision.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital 2017. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, venez vivre le bonheur d'en avoir pour votre argent. Découvrez le Sportage 2019, bien équipé à partir de $26,995 avec traction intégrale sans frais durant l'événement Domptez l'hiver. Et on est ouvert le samedi.
Déménagement AMG.
Vous déménagez au coin de la rue ou au bout du monde?
La solution? Déménagement AMJ.
Depuis plus de 80 ans, Déménagement AMJ est soucieux de rendre votre déménagement facile et sécuritaire. Spécialisé dans le résidentiel et le commercial, réservez maintenant et profitez de nos promotions en cours.
Déménagement AMJ, le plus grand déménageur au Canada. Visitez amjquebec.com ou appelez au 418-877-8787.
Projet de réno? Pensez à Construction Beaubois.
Agrandissement, ajout d'un garage, cuisine, ajout d'étage. Construction Beaubois réalise tous vos projets magnifiquement bien.
Construction Beaubois, artisan de votre bonheur depuis 42 ans.
Construction avec un S, beaubois.com.
Votre niveau de dette vous préoccupe? Mallette. Syndic autorisé en insolvabilité. Consultez-nous sans frais en visitant notre site web llTT.ca. Mallette. Avec vous. Là où ça compte.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
Le 26 février au Grand Théâtre, voyez Alan Parsons, ingénieur de son pour les Beatles et Pink Floyd. Il a ensuite vendu 45 millions d'albums et été nommé 11 fois aux Grammy Awards. Alan Parsons, le 26 février. Billets en vente au Grand Théâtre de Québec.
Les événements de Québec propulsés par le FM 93.
FM 93, ça me parle.